Bien, bonjour à tous. Inévitablement, les choses finissent toujours par se dégrader ou en tout cas se compliquer. Nous nous retrouvions avec une régularité d'horloge tous les lundis ici même, mais la semaine prochaine, je ne suis pas là, comme ça a été indiqué. Donc, le prochain cours est le 29 février. Puis, il n'y aura pas de cours à nouveau. Et ensuite, ça sera le 7 mars. Et il n'y aura pas de cours à nouveau le 7 mars, mais les deux semaines suivantes, les 14 et 21 mars, puis après le lundi de Pâques, les 4 et 11 avril. Tout cela est indiqué depuis le début de l'année sur le site internet, mais je vous le rappelle ce matin, donc en tout cas, dans l'immédiat, pas de cours lundi prochain, mais dans 15 jours, le 29 février. Alors, qu'avons-nous vu vraiment la semaine dernière sur les bas-reliefs de la Porta Romana que les consuls de Milan commandèrent, je le rappelle, en mars 1171 pour exalter la reconstruction de la ville après qu'elle ait subi le rituel urbanicide d'humiliation publique imposé par l'empereur Frédéric Barberousse. Nous avons vu ce que nous attendions à voir, c'est-à-dire les Milanais reconstruire leur ville, revenir dans leur maison, reprendre pied dans leur histoire. Mais nous avons vu également, en ce seuil de la ville, le mouvement inverse, symétrique de ceux qui entrent et qui sortent, et de ceux qui sont bannis, chassés, victimes expiatoires d'une refondation urbaine. Et avouez-le, ce fut un choc lorsque nous avons retrouvé Ambroise, le saint, le fouet à la main, non pour accueillir, mais pour exclure, car c'était lui qui chassait, on ne s'y attendait pas, qui ? Alors, soit les Ariens, soit les Juifs, cela non plus, l'image ne le disait pas. Ou plutôt si, elle disait quelque chose. Elle donnait à voir quelque chose, précisément cette ambiguïté calculée, ce moment où on ne décide pas, où on décide de ne pas distinguer, de ne pas de confondre au sens à la fois policier et logique du terme, justement les hérétiques d'hier, les Ariens, et ceux d'aujourd'hui, les Juifs. Ce que l'image donnait rendait visible, donc, et ce n'est pas n'importe laquelle des images, puisque c'est la première d'un art communal qui est en train de se constituer comme art de la persuasion, comme moyen de communication politique. Ce qu'elle donne à voir, donc, c'est moins une identification qu'un trouble dans l'identification, moins une assignation qu'une confusion. Et ça, c'est quelque chose qui me semble caractéristique de tout l'art politique. Je crois l'avoir vu aussi dans la fresque siennoise qui, d'une certaine manière, désigne des coïncidences et des concaténations de sens davantage que des assignations rigides. Et on a vu donc également que Ambroise, le lutteur infatigable contre les ennemis de l'Église, peut être aisément enrôlé dans les combats de l'anti-judaïsme médiéval. Alors, l'interprétation que j'avais suggérée la semaine dernière reposait sur l'idée que les bas-reliefs de la Porta Romana donnaient à voir des confusions davantage que des désignations, mais aussi des concaténations mémorielles bien plus que des souvenirs précis. Et en cela, je dirais que, vous savez, Émile Malle disait qu'il y a deux manières de raconter dans la pierre une histoire, il y a la manière délier des frises et il y a la manière nouée des chapiteaux. Et c'est soit un rythme resserré, soit au contraire une manière ample de faire frise. Et à partir du moment où les piliers se répondent deux à deux en des symétries symboliques, je dirais que la narration de la Porta Romana est à mi-chemin entre le récit d'une frise et le drame d'un chapiteau. Puisque, au fond, ce qui se déroule et se noue, c'est le travail du temps. Non pas le présent d'une histoire récente, non pas la mémoire confuse des temps anciens, mais précisément la manière dont le passé fait retour dans le présent pour l'éclairer d'une lueur obscure qui est la lueur des origines. Donc, on peut voir en même temps chasser de Milan tous les ennemis d'Ambroise et de la Commune. Tous les indésirables qui doivent quitter les lieux pour que nous puissions nous y établir. Nous, les Ambrosiens. Voilà. Nous y sommes. Voilà que le souvenir, qui est celui, notons-le dès à présent, d'une refondation et non d'une fondation, j'y reviendrai à la fin, voilà que le souvenir travaille à installer une identité politique. Ce mot que j'évitais jusqu'alors, mais qu'on ne peut plus éviter dès lors qu'il s'agit d'aborder aujourd'hui la question de la politisation de la mémoire ambrosienne dans le contexte des luttes communales, d'où le titre de la séance, la dispute communale du souvenir. Parce que ce qui est en jeu dans la notion de politisation, ce n'est pas seulement l'instrumentalisation politique ou partisane du souvenir, c'est effectivement plus profondément ce que, dans le cas de la stasis grecque, Nicole Leroux appelle le lien de division, c'est-à-dire le fait que toute fondation politique vise une dispute originelle, une mésentente, qu'elle consiste non seulement à conjurer, mais d'une certaine manière à remémorer. Alors, les historiens disposent d'un concept pour exprimer l'entrée d'un phénomène cultuel ou dévotionnel dans la sphère d'intervention des pouvoirs publics ou civils, c'est celui de religion civique. Bon. C'est un concept qu'à partir de maintenant, je ne fais que désigner par là, je vais tenter, sinon de critiquer, du moins d'assouplir. J'avais commencé à le faire dans un article qui est paru dans la revue historique, non, dans la revue de synthèse, pardon, en 2013, et qui montrait que, au fond, enfin, qui tentait de montrer que ce concept que dans les années 1980, les historiens ont préféré à celui de religion citadine ou de religion civile, et qui désignait le fait que, à partir de, notamment dans les communes italiennes, à partir du XIIIe et du XIVe siècle, le culte des saints, mais aussi la politique des reliques, mais aussi les processions, mais aussi les fêtes, tout cela fait partie, au fond, du ressort administratif de ce qu'on pourrait appeler la fonction publique, c'est-à-dire, d'une certaine manière, que c'est identifié comme une charge pour les pouvoirs civils, de la même manière que le ravitaillement, que la défense, que l'organisation des marchés. Et c'est cette politisation, au fond, de la religion, mais pas au sens nécessairement d'œuvre de légitimation ou d'instrumentalisation, mais plus simplement parce que ça fait partie, au fond, du domaine d'activité de la gouvernementalité, qu'on appelle la religion civique. Si j'ai mis quelques doutes sur la notion de religion civique, c'est parce qu'elle risque toujours, et pour des raisons dont on ne va cesser d'explorer la réalité historique, elle risque toujours d'emporter avec elle une conception, je dirais, irénique du jeu social, où, d'une certaine manière, il s'agit pour les communautés qui se fondent en politique de s'abriter sous l'aile duveteuse, accueillante d'un culte unanimiste. Or, ce que vous avez compris, évidemment, depuis le début, c'est qu'avec ces disputes de mémoire, au fond, en l'occurrence, le saint, qui devrait, en tant que patron de la ville, rassembler, divise tout autant qu'il rassemble. Et au fond, si on revient à la Porta Romana que nous avions vue la semaine dernière, en tant qu'elle ouvre sur la cité de Milan, eh bien, on dirait volontiers qu'elle ouvre à la fois sur la géographie urbaine d'une ville construite par les hommes. Et c'est cela qui est important, comme Dominique Iognapra l'a rappelé dans un livre qui vient de sortir, Cité de Dieu, Cité des Hommes, c'est-à-dire qu'il y a effectivement l'idée de la civitas, de l'ombre de Dieu sur terre, mais aussi l'idée d'une architecture de la société à main d'homme. On rentre dans la ville de Milan en tant qu'elle est Nouvelle Rome, mais en tant aussi qu'elle a été construite par les hommes. Elle a été détruite par eux, donc les adversaires, donc elle peut être reconstruite. C'est ce geste éminemment politique de notre avenir est à notre main, où ce qui a été détruit peut être reconstruit, c'est cela que ouvre la Porta Romana. Mais en même temps, elle ouvre aussi sur l'histoire politique de l'affirmation communale. Donc, au fond, c'est une porte qui ouvre sur la commune, en tant que la commune est un espace et en tant que c'est un moment. C'est en tant que ce seuil est un entretemps et un espacement dont la disponibilité me semble profondément politique. Mais la commune de Milan, qu'est-ce à dire ? Je dois quand même rappeler ici quelques éléments contextuels. La forme d'autogouvernement urbain qui peut se définir comme la poursuite de la réforme de l'Église par d'autres moyens, au fond, je l'ai déjà suggéré la semaine dernière, puisque j'avais dit que les derniers troubles de la pataria, c'est-à-dire de l'exacerbation de la réforme de l'Église, qui a versé dans l'hérétique, dans l'hérésie, dataient de 1096, et l'attestation des consuls de Milan, 1097. Donc on voit bien que l'un prend le relais de l'autre. Je dis bien l'attestation documentaire des consuls, puisqu'on ne sait jamais quand naît la commune dans les cités italiennes. On a simplement une date d'émergence documentaire. Il y a un moment où, dans les documents, on se rend compte que les consuls sont déjà là. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, parce que ça veut dire que de la naissance de la commune, il n'y aura rien à commémorer. Un jour, elle est là. Et on le constate. Et on le constate parce que, d'une certaine manière, et c'est cela aussi la politique, il s'agit de conjurer l'absence, en l'occurrence de l'empereur, qui assurait un ordre social, une concorde, une paix, qui ne peut être assurée maintenant qu'avec, effectivement, les moyens propres de l'autogouvernement urbain. Et c'est en cela que je disais que la commune est la poursuite de la réforme de l'Église par d'autres moyens, parce qu'elle assume cet idéal de concorde et de paix, et les consuls sont ceux qui, effectivement, consulere, vont délibérer, vont parler pour organiser, effectivement, ce gouvernement d'un type nouveau. Quand apparaissent le terme et donc l'institution des consuls en Italie, le premier exemple qui se détache en amont, c'est par sa précocité, c'est Pise, 1081-1085, et puis ensuite on a Asti, 1095, Milan, 1097, je vous l'ai dit, Arezzo, 98, ensuite tout est ramassé entre 95 et 1100. Bon. Donc il y a là effectivement une Italie qui se rentre dans le monde communal, mais cette première commune, c'est ce qu'on appelle la commune consulaire. Et il faut dire, pardon pour ces généralités, que c'est le temps, le premier âge de la commune, commune consulaire, et le temps aussi d'une commune aristocratique. C'est-à-dire qu'à Milan, et à Milan particulièrement, c'est ce que Hagenkeller a montré dès la fin des années 1970, eh bien, on a une aristocratie féodale très forte, qu'on appelle celle des capitanei, des capitaines, qui ont eux-mêmes des vavasseurs et qui forment une aristocratie dont la puissance sociale est fondée sur la terre et qui est d'abord... au sein duquel ce groupe social se recrute les premiers consuls. C'est d'ailleurs très exactement ce que voit en 1154 l'évêque Othon de Freising, qui accompagne son neveu, Frédéric Barberousse, l'empereur, qui passe les Alpes pour relever ses droits impériaux, puisque la situation est en train de lui échapper. Ça fait 50 ans qu'il y a des consuls, donc il veut simplement réaffirmer le fait que l'Italie était un empire. Et qu'est-ce qu'il voit ces Allemands qui, évidemment, ne sont pas habitués à ce moment-là à un monde urbano-centré? Ils voient d'abord, et c'est ça que Othon de Freising écrit, consigne dans son geste, ces gestes de Frédéric Empereur, que l'Italie est un pays de ville qui l'impressionne par leur prospérité, et l'auguste prélat allemand s'indigne de l'indignité et l'indiscipline des Italiens, je le cite, « ils aiment si fort la liberté qu'ils refusent tout excès de pouvoir et préfèrent pour les diriger des consuls à des chefs. » Et pour cela, dit-il, les nobles habitent en ville. Voilà ce qui, et là, on voit, c'est toujours, effectivement, lorsque un voyageur arrive et voit ce que ceux qui vivent ne voient plus, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que l'Italie pour ce prélat allemand ? C'est ce pays bizarre où les nobles vivent en ville, et pas dans leur château. C'est un inurbamento de la classe féodale, fait d'ailleurs qu'on comprend très bien. Évidemment, pour ça, il faut se défaire de tout le rêve romantique d'une commune qui naît précisément comme une révolution sociale avec des hommes nouveaux. Non, au départ, ce ne sont pas des hommes nouveaux. C'est, là encore, la modalité italienne de la féodalisation des pouvoirs. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, la confrontation entre l'empereur Frédéric Ier Barberousse, descendant en Italie, pour rétablir sa royauté et la commune est inévitable. La commune, ou plutôt les communes, rassemblées autour de Milan et de la première ligue lombarde. J'en rappelle la chronologie. La première phase de l'affrontement tourne en faveur des troupes impériales, culmine justement avec la destruction de la ville de Milan en 1162. 5 ans plus tard, en mars 1167, Crémone, Mantoue, Bergame, Brescia forment la première ligue lombarde, auquel viennent s'adjoindre bientôt d'autres villes, Parme, Padoue, Vérone, Plaisance et Milan, qui en prend la tête. Et c'est cette coalition de villes qui remporte la victoire décisive de Legnano le 29 mai 1176, ce qui oblige l'empereur a accepté les conditions de la paix de Constance, 25 juin 1183, qui, de fait, organise le transfert des pouvoirs régaliens vers les communes. C'est donc bien dans cette histoire éminemment politique qu'intervient Ambroise, ou le spectre d'Ambroise représenté sur les bas-reliefs de la Porta Romana. Mais est-ce lui qui revient ? Ambrosius Redivivus, comme on l'avait lu pour Bernard de Clairvaux, ou est-ce un nouvel Ambroise ? Ailleurs, j'ai proposé l'hypothèse que les consuls qui commandent les sculptures de la Porte de Milan ont souhaité, toujours cet art de l'ambiguïté calculée, représenter à la fois Ambroise et le nouvel Ambroise du temps. Et qui était le nouvel Ambroise du temps ? Il s'agissait d'un des leurs, un aristocrate, l'archevêque Galdino della Salla, champion de la liberté de l'Église, qui appartient à la très noble famille des Della Salla, qui avait fait sa carrière dans l'entourage des évêques et à qui on prête un rôle essentiel, justement dans la reconstruction de la ville après sa destruction en 1162, une attention particulière à la politique d'assistance, une grande fermeté dans la lutte anti-hérétique, bref, autant de thèmes ambrosiens qui rejouaient nettement en sa faveur. On est à un temps, effectivement, de confrontation où, quand je vous dis, c'est un évêque de choc qui est dans une famille aristocratique, ça veut dire, par exemple, que lors des premiers combats contre les troupes impériales, notamment en 1160, en août 1160, il est sur le champ de bataille. Donc, pour ça qu'il ne faut quand même pas s'étonner de voir représenter des évêques énergiques avec leur fouet. Oui, il se bat à Carcano, notamment, lorsque les troupes pontificales d'Alexandre III et les milices communales affrontent l'armée impériale. Et lorsqu'il redevient archevêque de Milan en 1166, tout en demeurant cardinal et légat pontifical en Lombardie, à ce moment-là, il quitte la ville pour ne pas vivre sous le joug impérial. Donc, on peut estimer que ce moment de retour dans la ville pacifiée et reconstruite, ce retour triomphal au sens du triomphe antique, c'est celui aussi de Galdino della Salla dans sa cité libérée, et c'est cela que célèbrent également les reliefs sculptés de la Porta Romana. On parlera dans 15 jours de la mémoire de Galdino della Sala, qui est une mémoire très intense aussi et également intensément disputée. Mais disons pour l'instant que l'archevêque de Milan meurt le 18 avril 1176, donc un mois avant la grande bataille décisive de Legnano qui va ouvrir effectivement l'histoire communale à l'affirmation de ses droits, de ses prérogatives, de ses régalia arrachés à l'empereur. Et la bataille de Legnano est évidemment un tournant mémoriel puisque l'Église milanaise peut à ce moment-là se dire ambrosienne sans que cette revendication apparaisse comme une attaque contre la papauté puisque précisément c'est aux côtés du pape qu'ils se sont battus. On retrouve d'ailleurs à Legnano une chapelle dédiée à Saint-Ambroise, dont on ignore la date de fondation. Elle est attestée pour la première fois par une notice, qu'on appelle la Notitia Cleri Mediolanensis de 1398. Mais elle existe au moins, on le sait, depuis 1257, et on sait aussi qu'elle, en 1257, elle est dotée par le pape Léon, qui est le premier pape franciscain. L'archevêque Léon, qui est le premier archevêque de Milan franciscain. Et à ce moment-là, d'ailleurs, commence à se nouer aussi, sur le plan dévotionnel, les mémoires franciscaines et ambrosiennes. On verra d'ailleurs que cette mémoire de Legnano, elle dure et elle rebondit à l'époque justement seigneuriale qui sera l'objet de notre attention dans 15 jours. Mais pas seulement. C'est-à-dire que l'écho de la bataille de Legnano, sur laquelle existe un livre, un excellent livre récent de Paolo Grillo, se fait encore entendre à l'époque contemporaine. C'est-à-dire que si je vous parle aujourd'hui des libertés communales, si je vous parle de cette histoire glorieuse de cette aventure d'émancipation des libertés publiques, c'est comme ça effectivement qu'à partir du XIXe siècle on a commencé à la raconter. Sismondi, le Suisse, Edgar Quinet, le Français, il y a un moment italien de l'histoire universelle de l'émancipation, et ce moment, il est communal, eh bien, évidemment, je ne peux pas me défaire de cette histoire dont l'ombre portée est encore présente aujourd'hui. Je ne peux pas ne pas faire que le 27 janvier 1849, on joue au Teatro Argentino de Rome la Battaglia di Legnano de Giuseppe Verdi, et que ça fait partie, effectivement, de la construction des Italiens comme nation, que de célébrer la bataille de Legnano. Aujourd'hui, parlons un petit peu de mémoire contemporaine, ça me paraît important. Aujourd'hui, c'est un palio qui est organisé à Legnano. Vous savez, ces courses de chevaux où on se bat entre contrades et en même temps, comme à Sienne, on affirme l'unité de la ville. Comme toujours, on prétend que ces palios sont d'origine médiévale. Comme toujours, en fait, ils sont... Il y a quelques attestations au XIVe siècle, mais fondamentalement, dans la forme qu'on est sommé d'admirer aujourd'hui, ce sont des cérémonies fascistes. En tout cas, né dans les années 30, 35 pour le palio, il suffit de Legnano, il suffit d'ailleurs de voir l'imagerie qu'elle trimballe. Ensuite, ça disparaît un peu, mais enfin pas très longtemps, puisque dès les années 50, avec la démocratie chrétienne, c'est évidemment reconstitué. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à Legnano lors du palio ? On voit que celui qui gagne la course a droit à la croix de Ariberto da Intimiano. Vous vous souvenez peut-être d'Ariberto da Intimiano, c'est l'archevêque dont on a parlé la semaine dernière, qui avait vu en songe Ambroise en 1037, au moment où il était prisonnier de l'empereur. C'est effectivement le grand homme de la réforme de l'Église. C'est lui dont on dit qu'il a inventé le carroccio. Et le carroccio, c'est le char de parade sur lequel est la croix d'Intimiano et aussi tous les symboles ambrosien, et ce char de parade, derrière lequel défilent les troupes lombardes, c'est aussi un autel portatif. Donc tout cela constitue effectivement à ce moment-là et est réemployé dans ces entreprises de commémoration et de mémoire. Notamment encore aujourd'hui, on exalte un personnage nommé Alberto da Giussano, qui est un personnage complètement légendaire, que Galvano Fiamma, dont je parlerai tout à l'heure, a inventé au XIVe siècle, et qui est censé avoir été le capitaine de la Compagnie de la Mort, c'est-à-dire des plus valeureux des Ambrosiens qui s'étaient battus à Legnano. Le Carroccio, la bataille de Legnano, Alberto da Giussano, la croix d'Aribert, on est dans l'imagerie politique aujourd'hui de la Ligue du Nord. Ben oui, parce qu'il faut parler, lorsqu'on parle de la mémoire et de la politisation de la mémoire, il faut y aller jusqu'au bout. Et le bout, c'est quoi ? Bon, ben, vous savez qu'il y a un parti xénophobe, séparatiste et populiste, d'Umberto Bossi, qui a commencé à avoir en Italie, maintenant ça s'est un peu tassé, des grands succès électoraux dans les années 1980, et qui s'est fondé, enfin refondé, justement, une fois établi, c'est comme les consuls, le 11 juin 1191, justement dans un petit village qui s'appelle Pontida, village de la province de Bergame. Pontida étant le lieu où aurait été organisé, avant la bataille de Legnano, le premier sermon de la Ligue lombarde. Et ce néo-guelfisme désigne clairement son ennemi, l'invasion étrangère, venu du Mezzogiorno, et ensuite, après, dans les années 2000, sous le berlusconisme, beaucoup plus clairement, l'islam. Depuis lors, la cérémonie se répète chaque année pour les Italiens. Pontida est devenu le symbole incontesté du legismo, hein, c'est-à-dire de la Ligue du Nord, qui est censée réactiver ce serment secret dans une abbaye bénédictine de rite ambrosien, le 4 avril 1167, des émissaires des cités lombardes ligués contre le centralisme impérial. Or, ce faisant, comme l'ont montré les travaux d'anthropologie politique sur lesquels je m'appuie en ce moment, ceux notamment de Linda De Matteo, en fait, il retournait un symbole politique du Risorgimento, puisque Pontida était un des lieux de mémoire de la fabrique des Italiens, encore, une pure invention littéraire, elle aussi, qui peut être attribuée à un poète romantique exilé à Paris, du nom de Giovanni Bercher, qui publia donc à Paris en 1829 le Giuramento di Pontida, dont la dernière strophe, farouche et belliqueuse, qui exalte la concorde retrouvée d'une communauté politique dans la désignation d'un ennemi, et qui est un moment poétique du patriotisme italien qui est ensuite chanté sur tous les tons jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ça vaut la peine quand même de l'entendre, je vous le traduis. Quel joyeux spectacle ! Les Lombards réconciliés, unis en une ligue, l'étranger donnera la couleur de son sang au drapeau qu'elle déploie. Bon, on peut dire plus clairement, effectivement, l'usage d'un ennemi commun pour constituer la couleur même d'une unité nationale. Parce qu'au début, c'est une unité nationale, et en renversant le vieux symbole patriotique, mais d'une patrie catholique, réactivée par le néo-guelfisme des démocrates chrétiens, la Ligue du Nord inverse complètement le symbole, inverse le clivage xénophobe, c'est-à-dire que les Romains sont les nouveaux barbares, les Autrichiens deviennent nos alliés. Alors, évidemment, tout cela est un peu bouffon, mais justement, Linda De Matteo a intitulé sa thèse sur l'ethnographie de la Ligue du Nord, Bergamasque, de la bouffonnerie en politique, montrant son fonctionnement carnavalesque, notamment par le fait que embrouiller les symboles, imbroglio en italien, est-ce au fond son principal mode d'action. Vous voyez, ce qui rend l'histoire bouffonne, c'est qu'il lui arrive de bégayer. Je reviens au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, l'empereur Frédéric II, grand empereur, roi de Sicile, Stupor Mundi, a tenté lui aussi de soumettre l'autonomie communale qui a provoqué la refondation de la Ligue lombarde. Et à ce moment-là, au XIIIe siècle, Milan est toujours aux avant-postes de la ce que Jean-Claude Merwiger appelle le leadership du monde libre, hein, c'est-à-dire la deuxième ligue lombarde qui va se constituer contre le retour de l'empereur Frédéric II en Italie, évidemment, qui va aussi se dérouler sur le Carroccio. Donc Frédéric II va prendre le Carroccio en 1238, va l'amener comme un trophée à Rome, et puis ensuite, à sa mort, 1250, les Milanais vont retrouver leur Carroccio. Donc tout ça, vous voyez, c'est là encore une redite, une reprise de l'histoire de la commune, mais justement, c'est plus la même commune. Parce qu'entre-temps, évidemment, le développement social et institutionnel de la commune s'est poursuivi. Dans quel sens ? Dans le sens de la bipartition factieuse de la classe dirigeante. C'est-à-dire que vous avez entendu que les consuls étaient au départ, effectivement, d'abord des aristocrates, et des aristocrates de la noblesse féodale, des capitanei. Bon. En réalité, il y a une pression populaire qui effectivement amène, dès les années 1190, le jeu à se polariser autour de deux forces. La militia, c'est-à-dire au fond la chevalerie, ou en tout cas les cavaliers nobles, et puis ce qu'on appelle le popolo, alors ça c'est très compliqué, mais disons pour l'instant, ceux qui ne sont pas nobles. Et il y a effectivement un clivage de la classe dirigeante qui va réactiver, puisque le popolo, c'est la partie populaire, mais populaire en tant que participant à la classe dirigeante, et tout cela crée les conditions d'une conflictualité communale sans cesse à conjurer. Alors, à chaque fois qu'il y a effectivement une agression impériale, on invente, au fond, une innovation institutionnelle. Alors, celle des années 1190, c'est ce qu'on appelle l'âge podestataire, c'est-à-dire le second âge de la commune, où pour un temps bref, 6 mois en règle générale, les communes vont confier leur gouvernement à un magistrat étranger qui vient pour 6 mois concilier, c'est un professionnel de l'arbitrage et de la conciliation, gouverner, régir. Bon, cet âge podestataire, qui est un âge extraordinaire, le second âge de la commune, eh bien, il permet à des magistrats itinérants, à une sorte de personnel politique vraiment professionnel, hein, également échanger les expériences politiques. Et à ce moment-là, on voit que Milan est la ville qui est la plus réclamée, parce qu'en fait, lorsqu'on veut un podestat, on va demander à une ville de choisir un podestat, donc on choisit sa ville et la ville choisit le podestat. Bon. Et jusqu'en 1220, c'est les capitales lombardes c'est la capitale lombarde qui est la plus exportatrice de podestats. Ensuite, ça sera Bologne, et puis ensuite Florence. Mais nous, là encore, nous considérons Florence comme la grande cité communale de l'Italie, alors que bien avant elle, et beaucoup plus intensément, ce fut évidemment Milan. Ce qui provoque l'irruption sur l'avant-scène politique du popolo, c'est l'agression impériale de Frédéric II, c'est à ce moment-là le troisième âge de la commune, c'est-à-dire les regimi di popolo, hein, commune populaire, qui se caractérise à la fois par l'élargissement de la base sociale du régime, mais aussi par l'accomplissement institutionnel, puisque c'est là, véritablement, que du point de vue de l'édilité, du point de vue de la fiscalité, du point de vue de la justice, l'édifice communal se parachève. Et à ce moment-là, ces évolutions, toujours, ne font qu'exacerber la bipartition factieuse de la classe dirigeante, dont le conflit politique est désormais polarisé par l'opposition entre popolo et militia. Alors, voilà un certain temps, me direz-vous, que l'on ne parle plus d'Ambroise. Patience, il revient. Mais ce qui revient, Et ce, dès 1198, n'est pas un revenant, mais c'est la force d'un nom. Les partis, comment on va les appeler ? Toujours intéressant. Un nom de parti, ou quand on change un nom de parti, ou quand on prend un mot général, normalement partagé par tous, pour se l'approprier. En 1198, les aristocrates, capitaines, vavasseurs, miliciens, se rassemblent en un parti qui s'appelle la Motta. Et les populares en Credenza di Sant'Ambrogio. Ah ben ça, c'est étrange alors. Nous, on croyait jusque-là qu'Ambroise était de la religion civique, c'est-à-dire c'est celui qui rassemble tout le monde. Mais dès que, effectivement, les partis choisissent leur nom, de manière privilégiée, ce sont les populaires qui décident de se porter sous la bannière de Saint-Ambroise. Et c'est la Credenza di Sant'Ambrogio pendant toute la première moitié du XIIIe siècle qui défend les intérêts du popolo. Et ça structure toute la vie communale. Et ce, jusqu'en 1258, où c'est dans la basilique Sant'Ambrogio qu'est signée la paix entre la Motta et la Credenza, qui sanctionne de fait l'élargissement de la base sociale du régime. Et comment appelle-t-on cette paix ? La pace di Sant'Ambrogio, parce que effectivement ça a lieu dans la basilique, parce que en plus c'est plutôt ça consacre un élargissement de la base sociale du régime. Donc, d'une certaine manière, avec la pace di Sant'Ambrogio qui est signée dans la basilique Saint-Ambroise, on retrouve notre Ambroise apaisant, mais jusque-là il ne l'était pas. Il divisait, il clivait, comme on dit aujourd'hui. Et cette phase 1198-1258, où Ambroise ne désigne plus donc toute la commune, mais un parti, c'est justement le moment où se fixent tous les rituels de la commémoration ambrosienne. Par exemple, c'est le moment où on fixe le grand moment, la grande procession du 7 décembre, fête de l'ordination d'Ambroise, par un rituel des offrandes de cire à Saint-Ambroise, chacun différentes églises dédiées à Ambroise, non seulement à Milan, mais dans le diocèse, amène un rituel comme ça, très fortement urbano-centrique, amène de la cire en procession pour désigner effectivement la basilique Saint-Ambroise comme la matrice au fond de cette géographie affective. À ce moment-là, le 7 décembre, c'est une fête au cours de laquelle du pain, du vin sont distribués aux plus démunis. Ça correspond à une période où cesse l'activité judiciaire. C'est un grand moment de la vie communale. C'est aussi un moment, 1198-1258, ce moment donc partisan de la mémoire ambrosienne, où a lieu toutes les récapitulations liturgiques. Ça vous a peut-être échappé, mais au fur et à mesure, lorsqu'on parlait de ça, lorsque je vous parlais, par exemple, du Bérol douce, c'est-à-dire du moment où on a fixé la liturgie ambrosienne, c'est aussi dans ces moments-là. Bref, voilà que, et on ne s'y attendait pas non plus, c'est dans ce moment partisan, au fond, que se crée, que se constitue, que ça soit la mémoire ambrosienne. Alors tout cela est évidemment bien connu des historiens de la commune, mais très rares sont ceux qui se sont interrogés sur le sens de la dénomination des partis, qui distribuent, vous voyez, inégalement la référence à l'âge d'or ambrosien. Il y a une notation bizarre chez un historien bizarre qui s'appelle Galvano Fiamma, qui est un historien négligé, alors qu'à mon avis, c'est vraiment une des grandes voies de l'historiographie du XIVe siècle, qui est peu connu parce qu'en fait, il est mal édité. C'est un dominicain qui est mort en 1344 et qui tente de concilier l'exaltation de la mémoire civique lombarde avec la célébration des héros de l'Église, évidemment, donc la liste des évêques, mais aussi avec les Visconti, ceux dont on va parler dans 15 jours, les seigneurs dont il est un infatigable propagandiste. Donc c'est quelqu'un qui réoriente l'histoire communale dans un sens seigneurial. Donc ce qu'il dit est toujours truqué, je dirais. Mais justement, c'est intéressant parce qu'il montre bien ce que c'est que l'embrouille, quoi. Voilà, comment on réussit l'imbroglio des références politiques. Qu'est-ce qu'il dit dans le Manipulus Florum, qui raconte l'histoire de Milon, des origines de 1336, des origines à 1336, qu'est-ce qu'il dit du moment où les populaires choisissent pour désigner leur parti Credenza di Sant'Ambrogio? Il écrit la credenza tire son nom du crédit que les membres du parti populaire accordaient à la noblesse. C'est une affirmation assez étrange, mais moins absurde qu'elle n'en a l'air du point de vue de la sociologie politique, lorsqu'on sait que le Popolo Milanais était effectivement, ainsi que l'a démontré Paolo Grillo, en partie dirigé par des membres de l'aristocratie consulaire et marchande, comme toujours. C'est-à-dire pour qu'un parti populaire effectivement défende le Popolo, il faut qu'il se trouve des leaders dans la partie clivée de ses adversaires. Bon. Donc la désignation du parti populaire serait, comme le suggère Fiamma, une concession à la culture aristocratique, ou du moins à une culture civique prétendument commune, mais dont on voit bien alors qu'elle est instrumentalisée par le groupe dirigeant communal où domine la militia. En tout cas, cette mention de Fiamma a le mérite de révéler que la désignation du parti populaire, qui paraît banale à tous les historiens modernes, ne l'était pas au XIVe siècle, au point qu'il doit inventer quelque chose d'un peu contourné, mais dans laquelle on reconnaît ce qu'en politique aujourd'hui on appelle la triangulation, c'est-à-dire s'emparer d'un mot de l'adversaire pour précisément en faire un étendard pour ceux qui justement veulent cliver. Donc, de ce point de vue-là, ça me semble assez intéressant, précisément que l'explication soit embrouillée, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Le Popolo aura avec Ambroise, je crois, un rapport privilégié, mais pas exclusif. Précisément parce que Ambroise, c'est Ambroise, on ne peut pas en faire n'importe quoi. On ne peut pas se l'accaparer complètement, c'est un saint universel. C'est aussi effectivement un père de l'Église, et c'est enfin quelqu'un dont la mémoire, on l'a vu ensemble, est quand même structurée. Bon. Il ne peut pas se passer, par exemple, à Milan, ce qui s'est passé à Bologne. À Bologne, où une hagiographie de combat a fait que... Bologne, c'est aussi une cité universitaire très clivée, avec une lutte politique très intense, et où les populaires ont leur saint, qui s'appelle Petronio, et les aristocrates ont le leur, Procolo. Et à la fin, c'est Petronio qui va gagner, qui va l'emporter, parce que, bah justement, vous voyez, aujourd'hui, San Petronio, c'est devenu le patron de la ville de Bologne. Et donc, là, on a véritablement une hagiographie de combat où chacun a son champion et il y en a un qui gagne sur l'autre. Mais c'est possible parce que les deux, Petronio et Procolo, sont quand même des personnalités, disons, à l'historicité évanescente, pour être poli avec eux, c'est-à-dire qu'ils ont quand même à peine existé, et donc, du coup, on peut les manipuler un peu gaillardement. Mais avec Ambroise, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans le cas de Bologne, si Petronio a fini par s'imposer, c'est grâce au soutien d'Ambroise. Les promoteurs du culte civique de l'évêque de Bologne, clairement liés au Popolo, jouent du rapprochement entre les deux saints, qui apparaissent côte à côte sur le carroccio des Bolognais, sur le sceau de la ville, lorsque les premiers membres du parti du Popolo de Bologne se réunissent, c'est dans la Curia Sancti Ambrosii, et puis on dit, là encore, la légende qui a été écrite au XIIIe siècle, on dit que Ambroise serait venu à Bologne aider Petronio à reconstruire sa ville après que Théodose l'ait détruite. Donc vous voyez comment tout cela effectivement rejoue entre le mythe et la légende, et qu'il aurait apposé des croix, vous voyez toujours ce modèle constantinopolien, pour refonder la ville de Bologne. Et donc le souvenir ambrosien a permis à la religion civique à Bologne de se relever, de désigner effectivement Petronio comme le saint du Popolo, qui devient le saint de la commune tout entière, jusqu'au moment où ça devient encombrant, puisque après Bologne passe dans un côté, dans le côté pontificale et donc disons l'expansionnisme milanais devient un adversaire. Alors à ce moment-là, ils font la grève du culte à Ambroise. Ambroise disparaît des sceaux des villes, etc. Bon. Donc tout cela, effectivement, montre que dans un cas comme le cas de Bologne, chacun peut avoir son saint. Dans le cas de Milan, pour les raisons que je viens de dire, c'est la mémoire du saint qui va se cliver. Parce que, justement, il n'y en a qu'un, et on ne peut pas complètement se l'approprier. Et voilà pourquoi le souvenir ambrosien effectivement se disputer. Et d'ailleurs, c'est clairement dans la basilique Sant'Ambrogio qu'on le discerne le plus clairement. Nous avons aborder jusque-là cet édifice comme le lieu de la stabilisation mémorielle, le lieu où on chante les hymnes, le lieu où l'on, à force de remploi archéologique, on canonise et le corps et le corpus d'Ambroise. Mais en fait, la basilique est elle-même clivée dans son histoire, dans son espace même, qui rend visible cette mémoire disputée. Pourquoi ? Eh bien, parce que les gardiens du sanctuaire de Sant'Ambrogio sont des prêtres officiales de la basilique. En fait, il y a deux types de clercs à Milan. Il y a les clercs qu'on appelle les decumani, qui sont des clercs mineurs et qui appartiennent plutôt au popolo, par opposition aux cardinales de l'entourage épiscopal. Or, à Saint-Ambroise, il y a deux communautés. Il y a une communauté de chanoines qui sont plutôt des mineurs, donc plutôt du popolo, et il y a une communauté de moines qui sont des moines bénédictins, donc plutôt aristocratiques. Et entre les deux communautés de Sant'Ambrogio, donc ils se partagent une église. Ça ne cesse de s'envenimer au XIIe siècle. Le conflit porte notamment sur le partage des offrandes faites à l'autel d'or. Je l'avais fait voir, l'autel d'or, hein, c'est quand même... Donc là, un truc aussi rutilant amène beaucoup d'offrandes et donc beaucoup de raisons de s'engueuler. La basilique est un champ de bataille, parfois au sens propre, puisque les sources évoquent régulièrement l'effusione sacerdotalis sanguinis, hein, l'effusion de sang, de prêtres, qui, donc, avec des bagarres en 143, en 144, en 189, en 191, en 198, 1201. Et d'ailleurs, c'est si vrai qu'en 1402, l'archevêque, exaspéré, ordonne une séparation de l'Église, aux moines la gestion de la partie gauche, aux chanoines la gestion de la partie droite. Bon, en tout cas, les chanoines, ce sont eux les entrepreneurs la mémoire. La plupart de la mémoire ambrosienne, la plupart sont des clercs en mineurs, des decumani, et on sait que ce sont eux qui ont joué un rôle actif dans la constitution de la Credenza di Sant'Ambrogio. Paolo Grillo, qui est le grand historien de la commune milanaise, a reconstitué quelques-uns de ces groupes familiaux aux horizons politiques moyens, aux ressources économiques modérées, proches des milieux de l'artisanat et du notariat auxquels ils sont apparentés, et dont les liens avec le milieu canonial des decumani constituent, selon l'expression de l'historien, le cœur politique du popolo ambrosien. Donc vous voyez que les luttes politiques dans lesquelles ils sont engagés passent par des conflits de mémoire. Mais parce que le souvenir d'Ambroise demeure lesté, comme on a dit, par une tradition liturgique, il ne se manipule pas aussi aisément que celui d'un saint récent et obscur comme Petronio. Donc, la conflictualité de la société communale traverse la basilique ambrosienne, y compris physiquement, en même temps qu'elle clive le souvenir d'Ambroise en deux mémoires politiquement antagonistes. Dès lors, se posent deux questions à l'historien, aussi difficiles l'une que l'autre. La première consiste à mesurer la réalité de cette appropriation populaire de la mémoire ambrosienne, la seconde à repérer la disponibilité de ce souvenir à cette captation sociale et partisane. Je vais indiquer rapidement une piste de recherche pour chacune. Comment on pourrait essayer de prouver cette préférence populaire Pour l'instant, je n'y suis pas parvenu. J'ai fait plusieurs enquêtes, par exemple une enquête sur les déterminants sociaux du choix du prénom Ambroise. Après tout. C'est toujours un peu... voilà, on le voit bien, ça peut être intéressé, ou en tout cas méditer le choix d'un prénom. Alors j'ai pris par exemple le répertoire des feudataires de Filippo Mario Visconti, de 1412 à 1447. Il y a 488 individus, soit 386 patronymes, soit 218 prénoms, de gens dont on est sûr qu'ils sont tous nobles, puisqu'ils sont feudataires, puisqu'effectivement ils reçoivent en fief des terres du duc. Alors évidemment, chez les nobles, les prénoms sont très dispersés, on veut s'appeler Saladin, Roland, etc. 151 sur ces 218 prénoms ne sont portés que par une seule personne. Les quatre prénoms les plus portés sont Antonio, Giovanni, Francesco, Jacopo, qui sont portés par 27% du groupe, et Ambrogio est le 25e prénom par ordre de fréquence, qui représente une part négligeable de la cohorte, soit 3 individus sur 488, 0,6%. Bon. Donc ce n'est pas un prénom noble. Ces concessions féodales sont prises devant des notaires. Tiens, je peux voir aussi comment s'appellent les notaires. Là, les notaires, je suis sûr qu'ils ne sont pas nobles. Bon, ils sont moins nombreux, 92 prénoms. On retrouve un peu moins dispersés aussi, mais c'est normal, ils sont moins nombreux. On retrouve à peu près le même groupe de têtes, Antonio, Giovanni, Francesco, Jacopo. Et Ambrogio fait un écart significatif. Il est porté par 7 notaires sur 186, soit un taux de 3,8%. Ce n'est pas non plus génial, mais enfin, c'est 7 fois plus que 0,6%. Bon, je ne suis pas très fier. Ça ne dit à peu près rien. Mais enfin, bon, je ferai mieux la prochaine fois. Je ne sais pas si on peut parvenir, d'ailleurs, à prouver cette appropriation sociale préférentiellement populaire de la mémoire ambrosienne. Resterait à en repérer les raisons. Là encore, je me contenterai de ne suggérer qu'une seule piste, celle de la prédication, qui rend disponible par la parole efficace du sermon les contenus doctrinaux, mais aussi exemplaires, les biographèmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que les prédicateurs, lorsqu'ils parlent d'Ambroise, vont retenir, et lorsqu'ils parlent au peuple, de la vie et de l'enseignement d'Ambroise. Je me suis attaché à l'activité de Pietro Maineri, qui est un prédicateur de l'ordre des ermites de Saint-Augustin, grâce aux travaux de Silvia Donghi. Il est actif dans les années 1320-1350. Notamment, j'ai regardé ses sermons sur la Sainte-Ambroise du 7 décembre. Alors, il reprend en gros Jacques de Voragine, la légende dorée. Il en adapte le récit en fonction des attentes présumées de son public. Il insiste particulièrement sur la confrontation des rites ambrosiens et grégoriens. Il reprend les histoires merveilleuses dont on avait parlé ensemble, l'Andulf l'Ancien. Donc tout ça, apparemment, au XIVe siècle, ça a l'air de marcher encore. Et puis, il puise dans des stocks d'exemplats. Alors, l'exemplum, vous savez, c'est ces histoires exemplaires, édifiantes. Ces biographèmes, mais alors là, qui effectivement sont le plus souvent purement imaginaires, puisqu'ils ne sont évidemment pas chez Paulin de Milan, et puis ils sont dans des stocks que le prédicateur Maineri, il est le Studium de San Marco, donc il y a tout ce qu'il faut, et notamment le Specchio di Vera Penitenza de Jacopo Passavanti, qui est un recueil d'exemplaires en langue vulgaire, parce qu'évidemment tout ça est en italien. Il se trouve que l'exemplum, d'après ce que j'ai pu voir, qui est le plus populaire, enfin, qui revient le plus dans la prédication sur Ambroise le jour de la Sainte-Ambroise, le 7 décembre, c'est une scène où Ambroise voyage. Il passe la nuit dans une auberge et il entend le propriétaire des lieux dire que, en fait, il a toujours vécu dans la prospérité, sans jamais de revers de fortune, et que, voilà, il est vraiment heureux dans la vie. Bon. Le lendemain matin, il part de cette auberge. Il apprend que Dieu l'a incendié, a tué tout le monde, et il rigole. Et il dit, c'est bien fait. Il était trop heureux et trop riche. un peu dur quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même une agressivité qui se trouve dans d'autres exemples et qui semble caractériser un Ambroise particulièrement virulent à l'encontre de la richesse. D'où ça vient ? Quelle est là encore la disponibilité textuelle de ces, ce type d'histoire ? Là encore, on peut trouver dans l'œuvre doctrinale d'Ambroise, notamment le De Nabutae, des passages, notamment le plus commenté au Moyen-Âge, ce passage où Ambroise défend l'idée qu'il est légitime de fondre les vases sacrés de l'Église pour faire l'aumône aux pauvres, racheter les captifs, édifier les églises ou acquérir des terrains afin d'y ensevelir les dépouilles des fidèles. Il est un hymne aussi qu'il a composé et que l'on chante dans les églises milanaises, qui est l'hymne Apostolorum Suparem, qui, là encore, célèbre le martyr de Laurent et le thème biblique des pauvres qui sont considérés comme les trésors de l'Église. Laurent, l'évêque, était sommé par son persécuteur de lui livrer les biens de l'Église. Donc, l'empereur voulait les trésors. Et Laurent se livre à une ruse pieuse en se présentant donc aux persécuteurs accompagné d'une troupe de gueux, jouant du couple antithétique Inopes Opes. Ah, quel spectacle magnifique ! Il assemble les gueux en troupe, montrant ses miséreux, il clame Inopesque monstrans predicat, voici les trésors de l'Église, I sunt opes ecclesiae. Donc, montrer les pauvres en disant voici les trésors de l'Église. Ce qui est une ruse, mais en même temps qui dit effectivement que la charité est la forme suprême de la thésaurisation. Je note au passage que cet hymne et cette légende de Laurent, qui permet à Ambroise au fond, de montrer que les véritables trésors de l'Église sont les pauvres qu'elle secourt, est le thème le plus couramment employé par l'Église dès lors que, même l'Église contemporaine, dès lors qu'elle a des aspirations sociales. Ainsi, le pape Paul VI, lors du Concile Vatican II, s'est-il largement appuyé sur l'autorité morale de l'évêque de Milan pour justifier le droit universel des pauvres à disposer des richesses. Je cite, « Ce n'est pas de ton bien, ça c'est Ambroise, c'est Ambroise, ce n'est pas de ton bien que tu fais largesse aux pauvres, dit-il s'adressant aux riches, tu lui rends ce qui lui appartient, car ce qui est donné en commun pour l'usage de tout le monde, voilà ce que tu t'arroges, la terre est donnée à tout le monde et pas seulement aux riches. » Je me rends compte que, d'une certaine manière, je n'ai, durant toute cette séance, et alors que nous avons quand même progressé jusque dans les années 1260, jusqu'au moment où, justement, la commune va verser dans la seigneurie, je me rends compte donc que, même si j'ai tenté de porter cette histoire de la dispute communale du souvenir jusqu'à son point de bascule seigneurial, avec Galvano Fiamma, dont on parlera dans 15 jours, je me rends compte que je n'ai finalement jamais tout à fait quitté aujourd'hui les bas-reliefs de la Porta Romana. Comme si, là encore, cette histoire de fondation et de refondation bégayait. Or, c'est précisément à l'époque communale que l'on échafaude le roman de fondation de Milan. Et il me semble qu'on peut l'interpréter comme une expression de ce lien de division dont je parlais, comme la fondation du politique dans une dispute originelle. Tous les romans de fondation des villes qui se reconstituent au XIIIe siècle désignent ce que Renaud Villard a appelé l'impossible sérénité des cités face à leur origine. C'est-à-dire que la commune, lorsqu'elle a à dire son origine, elle exprime en fait l'âpreté de la conflictualité, la conscience précoce et au fond plus douloureuse que glorieuse de ce que l'on appellerait volontiers aujourd'hui l'autonomie du champ politique et qui explique une forme de désenchantement du roman des origines qui se marque notamment par la figure toujours d'un héros fondateur très ambiguë. Qui est-ce qui fonde la ville ? Dans toutes les histoires qu'on va commencer à raconter, là encore, en s'appuyant sur Tite-Live, c'est le cas à Milan, c'est toujours un traître ou un exilé, parfois un tyrannicide, un homme qui cherche sa vengeance, un homme dont l'héroïsme, au fond, tient dans le fait qu'il assume son devoir de violence. Violence faite à la ville qu'il fonde, violence qu'il s'inflige en fondant la ville. Et au fond, dans ces romans de fondation des communes, telles qu'elles se les racontent au XIIIe siècle, eh bien, leur origine est toujours célébrée comme un accident de l'histoire, bien davantage que comme l'accomplissement d'un destin sublime. Et voilà pourquoi cette conscience de la fragilité urbaine explique pourquoi tant de sociétés communales se racontent leur origine en un récit heurté, bégayant, de construction, de reconstruction, de fondation et de ruine. Et c'est particulièrement vrai dans le cas de Milan. Et c'est aussi, semble-t-il, cela, ces échos, ces hoquets de la mémoire, que donne à voir la Porta Romana de Milan, c'est-à-dire, au fond, une étrange mémoire qui se fonde dans le trauma originel de la destruction. Et le récit de la fondation de Milan, tel qu'il se complexifie du XIIIe au XVe siècle, c'est un récit qui, à la fin, est en trois temps. La cité aurait été fondée par un descendant de Noé, puis détruite par un roi barbare nommé Suadès, avant d'être refondée par le grec Mésapo et détruite à nouveau lors de la chute de Troie par un certain Palladio. Elle entre alors dans le temps historique avec, comme on va le voir, la refondation par le roi Bellovese, qui est effectivement les origines gauloises, mais toujours heurtées de la ville de Milan. Un mot pour terminer tout à fait. Sur justement cette question d'une fondation qui ne se peut désigner que par une refondation. En 1956, un jeune professeur de philosophie proposait à ses élèves d'Hippocagne un sujet fort classique, qu'est-ce que fonder ? Et comme ce jeune philosophe, professeur de philosophie, avait pour nom Gilles Deleuze, eh bien, ses élèves prenaient des notes un peu plus consciencieusement que d'ordinaire, et on trouve ces notes sur Internet, et donc ce sont des notes de cours sur qu'est-ce que fonder, qui, effectivement, me semble très intéressante. Dans la tradition philosophique, explique Deleuze, l'idée de fondement a trois caractères principaux. Le fait d'avoir une origine plus profonde que celle d'un simple commencement, le fait d'être soumis à la répétition, le fait enfin que la chose prenne la dimension du monde. Donc fonder, ce n'est pas seulement rendre possible, mais rendre nécessaire. D'où la proposition essentielle de ce texte, qu'est-ce que fonder ? L'opération du fondement consiste à rendre nécessaire la soumission de la chose à ce qu'elle n'est pas. Et d'une certaine manière, le médiéviste ne se sent pas du tout dépaysé par cette définition de la philosophie contemporaine, puisque ça recoupe en partie la polysémie du terme de fundamentum en latin médiéval, et notamment ses usages ecclésiaux théologiques, où l'édifice est fondé dans ses fondations ad fundamenta, non seulement dans ses origines, mais dans son commencement liturgique, une consécration, et cette fondation profonde, et en même temps un fondement heureux, felicia fundamenta. Une origine plus qu'un commencement, la répétition du rite, la soumission de la chose à ce qui la dépasse. On retrouve bien ici cette triple dimension deleuzienne de l'acte de fonder, fonder et refonder. Dans ce bégaiement, dans cette rythmicité, il y a autre chose, je pense, que la possibilité conjoncturelle de refaire ce qui a été défait, de réparer ce qui a été détruit, de reprendre pied dans une ville qui a été humiliée par un empereur, de reprendre les mots que d'autres nous ont volés. Il y a l'idée que cette duplicité de fondation, refondation, recoupe une autre tension plus essentielle, qui est le rapport entre la création et la destruction, comme si l'on ne pouvait fonder réellement que ce qu'on avait préalablement détruit, comme si ces romans des origines que constituent les récits de fondation des cités médiévales, au-delà de leur caractère plaisant et fantasque qu'on a tout fait de folkloriser, exprimaient sourdement cette violence des fondations qui est le fait même politique que l'origine, c'est toujours la dispute et que, au fond, ce que doit orchestrer la politique, et c'est ce que j'ai appelé la politisation du souvenir, ce n'est rien d'autre qu'une mésentente, c'est-à-dire le fait de s'accorder sur ce qui nous désaccorde, finalement, de se mettre ensemble dans ce lien de division, dans la stasis, de cette dispute originelle sur ce qui, au fond, fait société, c'est précisément ce sur quoi elle se divise. Merci beaucoup, et donc, à dans 15 jours.